France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Alom à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Loïc Frapsos à la console. Y aurait-il un génie de la vieillesse? C'est ce que nous tenterons de démontrer au cours de cette émission. Elles sont nombreuses, les représentations du vieux dans l'art, de Rembrandt à Van Gogh, en passant par Ronsard.
Je n'ai plus que les os, un squelette, je semble, décharné, dénervé, démusclé, dépulpé, que le trait de la mort sans pardon a frappé. Je n'ose voir mes bras de peur que je ne tremble. Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble, ne me sauraient guérir. Leur métier m'a trompé. Adieu, plaisant soleil, mon œil est étoupé. Mon corps s'en va descendre où tout se désassemble. Quel ami me voyant à ce point dépouillé, me reporte au logis un œil triste et mouillé, me consolant au lit et me baisant la face, en m'essuyant les yeux par la mort endormie. Adieu, chers compagnons. Adieu, mes chers amis. Je m'en vais le premier vous préparer la place.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Ronsard, merveilleusement servi par le talent de Jean-Louis Trintignant. Deux invités pour évoquer cette dernière partie du chemin. Jacqueline Lagrée, à laquelle on doit un essai publié aux presses universitaires de Rennes. Vieillir, point d'interrogation, tout un art, tel en est le titre. Et Clémence Guillermin, qui publie au PUF « Le vieillissement n'est pas une maladie ». Jacqueline Lagrée, dans votre essai, vous évoquez Rembrandt, Van Gogh, Ronsard. Il s'agit là d'une représentation, en tout cas en ce qui concerne Ronsard, mais même dans les peintures aussi, dans les tableaux, c'est une représentation, on va dire, un peu rude, mais réaliste, au fond.
Tout à fait réaliste, mais un peu triste quand même. Et c'est pourquoi, sur la couverture, on a choisi ce magnifique portrait, autoportrait de Nadar, qui a l'œil vif, curieux, un petit sourire.
Et un air étonné.
Et ça, c'est absolument fondamental.
Vous n'aimez pas, ça vous agace beaucoup, et je crois comprendre, la façon dont on s'adresse aux vieux dans bon nombre d'ouvrages. Alors, on recommande de bien manger, de bien dormir, de bien bouger pour bien vieillir. Ça ne vous va pas du tout.
Ça ne me va pas du tout parce que c'est exactement le genre de choses que je peux dire à mes petits-enfants de temps en temps quand je les vois trop sur leur téléphone. Mais comme ils sont sympas et intelligents, eh bien, ils bougent, ils mangent raisonnablement, ils dorment, semble-t-il. Et bref, ce qui est important pour eux, comme pour moi, c'est d'avoir toujours une grande curiosité, de s'étonner devant les choses, de chercher à les comprendre, de ne pas se lamenter. Vous savez, je suis spinoziste, donc j'utilise ce vieil adage que reprend Spinoza plusieurs fois. Ne pas pleurer, ne pas se moquer, ne pas râler, mais comprendre. Et si on a toujours l'envie de comprendre, on peut vieillir bien.
En fait, si je vous comprends bien, il faut agir et non pas subir son
âge. Absolument.
C'est pour ça que c'est tout un art.
Vous savez, Freud disait qu'être normal, c'est être capable d'aimer et de travailler. Eh bien, moi, je veux être une vieille dame normale.
Et Montaigne, qui pensait que le vieillissement en soi n'est pas intéressant, mais la façon dont on le vit.
Absolument.
Clémence Guillermin, vous êtes philosophe, je vais pas donner tout votre CV parce que ça prendrait l'émission, vous êtes philosophe des sciences, vous avez un master de génétique, vous étudiez donc le vieillissement au croisement des sciences biologiques, de l'histoire et de la philosophie. En fait, c'est très difficile de définir ce que c'est que le vieillissement, parce que c'est un processus, en fait, ça s'inscrit dans la durée.
Tout à fait. C'est une définition qui est très intéressante pour les philosophes, justement pour les raisons que vous évoquez. D'abord, c'est ce qu'on pourrait appeler un concept frontière, pour reprendre le terme d'Ilana Lowy. C'est-à-dire, c'est une notion d'interface entre plusieurs domaines au croisement de diverses disciplines, diverses approches, puisque c'est une notion importante pour la médecine, la biologie, qui s'intéresse au vieillissement des corps, des tissus, des organes. C'est une notion importante pour d'autres disciplines, l'économie, la démographie, la géographie. Et puis, c'est une notion intéressante pour les sciences humaines et sociales, dont la philosophie fait partie, qui s'intéresse plutôt à l'expérience du vieillir. Et lorsqu'on cherche à définir cette notion, justement, c'est là aussi que c'est intéressant, on réalise qu'on n'a pas de définition unique ni consensuelle du vieillissement, y compris, et c'est tout l'objet de mon livre, au sein de la biologie du vieillissement, donc ce domaine qui serait le domaine de référence sur ce sujet.
Et la médecine anti-âge, donc, qui est née aux États-Unis dans les années 80, je crois, aux États-Unis, qui est donc une spécialité médicale, est un acteur essentiel, au fond, de la recherche, justement, sur le vieillissement.
Oui, tout à fait. Alors, un risque qu'on pourrait avoir, notamment ici en Europe, on a tendance à avoir un esprit critique, ouais. Ce serait de vouloir écarter trop rapidement cette médecine anti-âge, pour des raisons tout à fait légitimes, mais éthiques notamment. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que notamment Binstock a montré dans un article de 2003, c'est que cette médecine anti-âge et le développement de cette médecine anti-âge a dynamisé, a contribué à développer la recherche sur le vieillissement au cours des 2-3 dernières décennies. Donc, il ne faut pas l'écarter trop rapidement.
Alors, une question qui s'adresse à toutes les deux. Est-ce qu'il est, malgré tout, compte tenu de ce qu'est la réalité aussi du vieillissement et de la vieillesse, de brosser un portrait idyllique des deux? Si on pense à, alors évidemment, on peut s'appuyer sur beaucoup de philosophes et autres, mais Cicéron, Montaigne, Aristote, Galien qui a fondé, au fond, la gériatrie. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire comme ça, grosso modo, Jacqueline Lagrange?
On ne peut certainement pas dire, dans l'abstraction, que le vieillissement est quelque chose de sympathique et ne lui donner que des caractères positifs.
Mais ça n'est pas enviable.
C'est peut-être enviable, c'est quand même, oui, de pouvoir vieillir bien. Mais il faut absolument tenir compte des conditions sociales, économiques, d'hygiène de vie des gens qui vieillissent. Et quand on compare notre état à nous, personnes âgées, et celui de nos parents, on a des moyens médicaux, on a des modes d'alimentation qui sont bien supérieurs à ceux de nos parents. On vit plus âgé, on vit mieux, et on vit en meilleur état.
Vous n'aimez pas qu'on donne des conseils sur le bien manger, mais les questions d'alimentation sont quand même, elles sont vieilles comme le monde, je dirais. Les Grecs déjà s'y intéressaient. Il faut manger plutôt moins, on peut dire ça, quand on vieillit.
Surtout, il faut manger diversifié, il faut manger des légumes, il faut... Les Grecs, c'est pas étonnant, ils pratiquaient déjà le régime crétois. Hein. Donc, oui, c'est aussi vieux que la réflexion sur le vieillissement. Mais j'aime pas trop le mot vieillissement, moi, parce que je ne sais pas si c'est un verbe, ou si c'est... Enfin, si ça désigne un processus, ça me va très bien, ou si c'est un état. Il faut surtout pas considérer ça comme un état. C'est un processus et qui peut être soit subi, soit agi, c'est-à-dire accompagné par un travail sur soi et sur son environnement surtout.
Clémence Guillermin, qu'est-ce que, alors vous qui avez le mot vieillissement précisément dans le titre de votre livre, le vieillissement n'est pas une maladie, qu'est-ce que vous répondez à Jacqueline Lagrée?
Alors moi je fais une distinction au tout début entre vieillissement et vieillesse. Vieillissement et ses naissances. Donc la vieillesse, pour moi, c'est vraiment l'état, la période de la vie qui commence, vous en parlez aussi dans votre ouvrage, qui est toujours délimitée par une borne inférieure, donc un seuil qui varie, vous l'avez dit aussi, selon les époques et le contexte social. Donc, pour rappel, Montaigne se disait vieux à 47 ans, Hippocrate faisait commencer la vieillesse à 56 ans, Aristote, je crois, à 50, et Saint-Augustin, il me semble, à 60. Et probablement aujourd'hui, ce serait beaucoup plus avancé, l'âge d'entrée dans la vieillesse. Et je fais aussi une distinction entre le vieillissement et ce qu'on appelle la sénescence en biologie, qui est focalisée sur les manifestations négatives du vieillissement, et en particulier sur l'augmentation de la probabilité de mourir avec l'avancée en âge. Le vieillissement ne se réduit pas à ça, évidemment. Et donc pour moi, quand je parle du vieillissement, c'est vraiment l'idée d'avoir un processus qui se déroule dans le temps, qui s'inscrit dans la durée, ce qui ne va pas d'ailleurs sans poser un certain nombre de problèmes pour l'appréhender, pour la biologie et aussi pour la philosophie.
Ça vous va, ça, Jacqueline Lagrée?
Complètement.
Bon, ben on est, tant mieux, alors vous restez.
Je reste.
Simone de Beauvoir, c'était sur Radio-Canada en 1970.
Du fait qu'un homme âgé n'a plus les mêmes possibilités de fatigue et de travail, il est mis à la retraite généralement, ou il s'y met de lui-même. Donc vieillir, c'est aussi cesser de travailler. Ce qui est un bien pour certains, parce que ça leur permet d'avoir des loisirs, mais ce qui est un affreux malheur pour la plus grosse majorité, parce que l'absence de travail, ça suppose une chute du niveau de vie terrifiante, étant donné que les pensions sont extrêmement insuffisantes.
Vous avez écrit cet essai sur la vieillesse, Simone de Beauvoir, pour lutter contre la société qui considère les vieillards comme des parias, c'est cela ?
Oui, en grande partie, c'est-à-dire qu'elle les considère, elle ne le dit pas, mais elle les traite comme des parias. À la contraire des mythes dans lesquels le vieillard apparaît comme un sage, comme quelqu'un de plein d'expérience, de vénérable, de respectable, mais en réalité, elle les traite comme les parias, c'est-à-dire qu'en effet, elle les empêche de travailler, ce qui serait un bien si elle leur donnait des moyens de vivre décents. Mais elle ne leur donne pas du tout, et il y a une quantité d'indigents qui sont des vieillards, de vieillards qui sont des indigents. On ne fait vraiment, sauf dans une quantité infime, mais dans l'ensemble, on ne fait vraiment rien pour permettre aux vieillards, une fois qu'ils sont dans les hospices, dans les asiles, dans les maisons de retraite, leur permettre de s'occuper, de se réunir et de peupler ces loisirs dont on leur fait cadeau, et un cadeau qui est bien souvent un cadeau empoisonné.
La vision de Simone de Beauvoir est plutôt négative. La société traite mal ses vieux, les met un peu au rancard, notamment avec la question de la retraite, Jacqueline Lagré, même si vous, pour vous, il n'y aura jamais de retraite. Je le comprends bien.
C'est ce qu'on m'a dit déjà.
Ouais.
Mais bon, le livre de Simone de Beauvoir que je me suis obligée à lire ou à relire avant d'écrire cet essai, il est très négatif.
Ouais. Hein.
Il y a énormément d'adjectifs péjoratifs pour désigner les vieux. Mais il faut dire aussi qu'elle a eu le mérite de montrer la dimension sociale et économique de la vieillesse, et ça, c'est incontestable, et je lui en sais gré, mais elle oublie qu'on peut travailler autrement qu'en étant dans un contexte de salariat. Elle-même, elle a travaillé jusqu'à la fin. Et la vieillesse, elle l'a écrit en réaction à la douleur de la mort de sa mère, avant d'écrire un autre livre sur ce sujet. Mais on peut travailler de tas de façons. Alors évidemment, nous, intello, prof, on peut continuer à lire des livres, écrire des articles. Mais je connais des tas de gens qui n'ont pas fait les études que j'ai faites, et qui travaillent d'une autre façon. C'est-à-dire qui apprennent des choses, qui produisent des choses, que ce soit de la cuisine ou du tricot ou autre chose.
Du jardinage.
Et, oui, et qui s'occupe d'autrui et pas seulement d'eux-mêmes. Mmh.
Mais pour Platon, le vieillard est instruit et il est également un peu un symbole de la stabilité. Ça, c'est pas mal, non ?
C'est pas mal. C'est pas mal, mais j'aimerais bien que cette stabilité ne signifie pas qu'il ne bouge pas. Hein, il faut aussi qu'il explore de nouveaux domaines et qu'il apprenne des choses qu'il avait toujours eu envie d'apprendre et qu'il n'a pas eu le temps d'apprendre.
Jacqueline Lagré, vous êtes donc notre invitée pour Vieillir tout un art, et Clémence Guillermin, qu'on va écouter tout à l'heure parce qu'on va vraiment revenir sur un plan biologique, le sujet mérite d'être approfondi, pour un essai intitulé « Le vieillissement n'est pas une maladie ».
My life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24. So much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you.
Vous êtes bien sur France Inter et c'est l'heure philo que vous écoutez. Véronique Boudon, elle est philologue et historienne de la médecine. Elle a écrit sur Galien, Hippocrate, Avicenne et j'en passe. C'était sur France Culture en 2026.
Alors, il y a déjà au départ l'idée que tout ce qui est généré est soumis au vieillissement. Ça, c'est indiscutable. C'est une loi du monde, du cosmos, comme du microcosmos, c'est-à-dire du petit monde qu'est le corps humain, qui ne fait que refléter l'ordre du grand monde qu'est le cosmos. Donc, il y a ce mélange, oui, des quatre humeurs, mais on peut laisser ça de côté assez vite. Et simplement, les Grecs, qui n'avaient pas tous nos appareils, nos scanners, nos thermomètres, etc., étaient en revanche d'excellents observateurs et avaient vu que le cadavre était froid. La vieillesse, c'est un refroidissement. Bon, cela une fois posé, on va essayer de lutter contre ce refroidissement, et donc j'en viens tout de suite et très vite aux soins qui vont être proposés. Mais avant cela, il y a l'idée que la vieillesse n'est pas une maladie, ne réclame pas une thérapeutique particulière, dans la mesure où les maladies qui existent peu ou prou dans la vieillesse sont les mêmes que celles qui peuvent exister à d'autres âges, mais avec des caractéristiques différentes.
Alors, beaucoup de choses dans ce que vient de dire Véronique Boudon. Clémence Guillermin, la question du vieillissement, elle est à la fois organique, physiologique, corporelle. Déjà, c'est une réalité, là encore, les cellules peuvent pas se diviser un nombre infini de fois.
Oui, tout à fait. Ça, c'est la découverte de la limite de Hayflick, il me semble, c'est 1960. Donc, le moment où on a compris, on a observé que les cellules eucaryotes se divisent un nombre fini de fois avant d'entrer en sénescence et de rentrer dans une dernière phase de vie et de mourir, effectivement.
Mais est-ce qu'on vous diriez qu'il y a une corruption progressive du corps? Je dis ça parce que c'est un mot que vous employez.
Alors, quand je parle de corruption progressive du corps, c'est quand je fais référence aux travaux de Paracels.
Là, on est au XVIe siècle.
Oui, XVIe siècle, effectivement. Ou éventuellement à la théorie de l'empoisonnement de Delimechnikov au début du XXe, qui décrivait le... Alors, il parle moins de corruption, c'est plus un empoisonnement progressif de l'organisme.
Metchnikov, on peut dire que c'est le père fondateur de la gérontologie.
C'est tout à fait, c'est le père fondateur de la gérontologie, qui reprend un petit peu la vision de Paracels. Donc, effectivement, avec cette idée de corruption, d'empoisonnement progressif de l'organisme par les micro-organismes contenus dans les intestins pour Metchnikov. Après, de nos jours, je ne sais pas si ce mot de corruption serait applicable pour décrire le vieillissement biologique.
Vous aviez une question, je crois, Jacqueline Lagré, à poser à Clémence Guillermin.
Oui, mais si la réponse n'est pas totale, ce n'est pas grave. Je me souviens que quand on a commencé à cloner des mammifères, il me semble que c'était un mouton, enfin c'était un ovin, et on a constaté qu'il vieillissait plus vite que la mère.
Et c'était Dolly, je crois même.
Oui, la brebis.
Et que ses chromosomes s'usaient, enfin s'abîmaient plus vite. Parce qu'à l'époque, moi je me souviens, je m'étais dit, mais c'est épouvantable, parce que on va cloner des chiens et des chats pour des gens qui n'arrivent pas à s'en séparer, et on va rentrer dans un processus qui est l'interdit du deuil et le déni de la finitude, et c'est pas bon. Quand on vieillit, on a de plus en plus d'amis qui meurent, il y a des tas de choses qu'on n'arrive plus à faire. Donc si on ne prend pas en compte que le deuil, c'est un élément de la vie, et que la finitude, ben, c'est notre lot commun, ça me paraît une catastrophe. Donc je voulais savoir si c'était toujours vrai, et parce que j'avais l'impression qu'on avait arrêté ce processus, qu'on ne cherchait plus à produire en masse des clones pour des raisons économiques.
Alors, je suis pas spécialiste du sujet, mais il me semble qu'il y a eu récemment des émissions qui dénonçaient justement des techniques de clonage utilisées dans des pays loin de chez nous, et qui rappelaient justement qu'on ne maîtrise pas complètement encore ces techniques. C'est-à-dire que pour un chien, chat ou animal de compagnie cloné correctement, on en a beaucoup, beaucoup de déchets, beaucoup d'animaux qui, soit qui sont infertiles, soit qui ne vivent pas bien, ne vieillissent pas bien, meurent très jeunes. Donc effectivement, il se passe quelque chose. On maîtrise pas complètement la technique. Et pour vous répondre plus spécifiquement sur la dimension du vieillissement, effectivement, on a fait un lien entre l'attrition des télomères, donc ce raccourcissement des extrémités des chromosomes à chaque division cellulaire, et le vieillissement des organismes. Donc il est possible, de ce que je connais de la biologie, on va prendre avec des pincettes, il est possible qu'effectivement les télomères de ces animaux clonés soient déjà peut-être raccourcis au départ, ce qui pourrait expliquer un vieillissement accéléré. Vérifier avec les biologistes. En tout cas, je perds le fil de...
Ah, non, mais ça veut dire qu'on n'a pas essayé de refaire ça en France, quoi.
En tout cas, c'est très encadré en France. D'accord. C'est beaucoup plus...
De toute manière, nous ne sommes pas tous égaux face au vieillissement, à la vieillesse,
oui.
Sur le plan aussi bien, évidemment, biologique, mais aussi social, symbolique, presque. On n'est pas tous égaux.
Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que, justement, la biologie du vieillissement peut fournir des preuve biologique d'inégalités interindividuelles face au vieillissement. Des inégalités entre les sexes, donc les hommes et les femmes, on vieillit pas de la même manière, pas au même rythme. Selon notre mode de vie, selon notre environnement, selon notre exposition à divers facteurs environnementaux. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que la biologie aujourd'hui dispose de méthodes ou d'instruments de mesure, d'outils pour quantifier ces différences, notamment de ce qu'on appelle les biomarqueurs de vieillissement, donc des marqueurs sanguins par exemple, ou éventuellement ce qu'on peut appeler des horloges de l'organisme, à prendre avec des pincettes aussi pour pas faire de confusion avec les horloges circadiennes. Mais voilà, on dispose aujourd'hui de techniques pour mesurer la vitesse de vieillissement des individus, les uns par rapport aux autres, et selon leur mode de vie, selon leur alimentation, etc.
Jacqueline Agri, ce qu'on peut souligner, c'est que la philosophie apprend, les philosophes nous apprennent peut-être à mourir bien, mais pas à bien vieillir.
Non, ça ne les a pas intéressés, mais ça peut venir. Et parce que ils ne considéraient sans doute pas la vieillesse comme un état pathologique. Hein. C'est ce qui m'inquiète un peu dans ce que vous dites là sur les moyens biologiques de mesurer le vieillissement. C'est qu'on en fasse justement des instruments de mesure qui montrent que un tel vieillit bien parce que ses mesures sont bonnes et un autre vieillit mal. Et on oublie beaucoup trop la dimension mentale, c'est-à-dire l'amour de la vie, quoi. Quelqu'un qui vieillit bien, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime son entourage, qui est capable de s'émerveiller devant des toutes petites choses, qui est capable de regarder autour de lui. Et la mesure, ça va, quoi.
Mais mourir de vieillesse, au fond, c'est assez récent, parce que on meurt beaucoup plus vieux qu'on ne mourait avant.
Je pense qu'on mourait de vieillesse avant, mais on ne considérait pas que la vieillesse était une cause de la mort.
Il n'y avait pas autant d'années de vieillesse, peut-être.
Il n'y avait pas autant d'années de vieillesse sur autant de gens, parce qu'il y avait quand même, y compris dans l'Antiquité, des hommes qui mouraient à 90 ou 100 ans. Hein.
Mais c'était des exceptions, non ?
C'était probablement des exceptions. Oui. De toute façon, ce qu'on sait, c'est comment mouraient ceux qui écrivaient des livres. On ne sait pas comment mouraient les paysans.
Mais quand, par exemple, Cicéron écrit son traité sur la vieillesse, il l'a écrit 2 ans avant de mourir, il avait 62 ans. Ce qui était déjà, aujourd'hui, un homme de 62 ans, c'est un jeune homme. Sénèque, il a à peu près 65 ans quand il écrit sur la vieillesse, mais il ne se sentait pas vieux.
Mais il savait qu'il risquait la mort proche. Et pas la mort naturelle.
Oui, ouais.
Donc, c'est quand même un contexte un peu différent. Sénèque, quand même, c'est extraordinaire dans les lettres à Lucilius. Il se sent pas vieux du tout. Et puis, il va dans sa campagne et il découvre qu'un arbre qu'il a planté est abîmé, qu'il faudrait ravaler la façade et que son concierge est vraiment trop vieux. Et à chaque fois, l'intendant lui dit « Mais il a votre âge !» Et du coup, il rentre, il se sent vieux. Ça, c'est extraordinaire.
Et Sénèque qui écrit « Quiconque s'est dit « j'ai vécu » se lève chaque jour pour une aubaine à recueillir ».
Eh ben
c'est magnifique.
C'est super.
Aline Chamaillan, c'était sur France Culture en 2026, elle est sociologue et chercheuse.
Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas déployer qu'une vision déficitaire de l'avancée en âge et du vieillissement.
Oui.
C'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est ce qui fait aussi que cet âge de la vieillesse, il est dénié, il est refoulé, il est mis à distance. On est dans une société qui a cloisonné les âges. On a construit un âge de la vieillesse. Ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, bien au contraire. Il existe des sociétés, je pense à une société qu'avait étudié Bernard Arcan en Colombie, qui n'avait pas institutionnalisé d'âge de la vieillesse,
oui.
Les Cuivas. On a institutionnalisé cet âge de la vieillesse et de ce fait, on a cloisonné les âges et on a mis, d'une certaine façon, à distance cet âge qui pose problème dans une société qui incarne d'autres valeurs. Alors, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que avant d'arriver à ce portrait que vous dépeignez hein, d'une vieillesse littéralement dépendante où les proches doivent entrer dans une intimité, il se passe beaucoup d'autres choses qui nécessitent d'être aussi exprimées et je dirais que c'est notre rôle et peut-être notre mission aussi de spécialiste des questions du vieillissement d'en parler parce que ce qui fait que toute cette réalité de la vieillesse dépendante entre guillemets, sera abordé, je dirais peut-être plus sereinement, apprivoisé des deux parts d'ailleurs, de la part des personnes âgées elles-mêmes, mais aussi de leurs proches, eh bien c'est que cet être ensemble et ce vivre ensemble aura été apprivoisé dès le plus jeune âge.
On a cloisonné les âges de la vie et au fond, le regard qu'on porte sur les vieux, maintenant on dit personnes âgées, enfin, on peut dire les vieux, est peu amène. Tout de même, la Jacqueline.
Oui, et ça me rappelle le début du confinement au moment du Covid. Le gouvernement avait décidé que les personnes de plus de 70 ans seraient confinées plus longtemps que les autres. Et moi, je m'apprêtais à prendre ma plume, à écrire un article vengeur dans Ouest France, le journal local très diffusé, quand Laure Adler a fait une intervention publique ravageuse et efficace, et ça a été fini. Oui, on cloisonne, mais on ne sait pas quand cloisonner. Quand vous demandez à un médecin quand est-ce qu'on est vieux, ça dépend du médecin et de son âge. Hein. Il y en a qui vous diront à 75 ou 80, oui, et d'autres qui diront oh, jusqu'à 85, il n'y a aucun problème. Bon, il faut pas cloisonner, pas plus qu'il ne faut cloisonner l'enfance en disant que quand on a moins de 7 ans, on n'a pas l'âge de raison, donc on peut pas réfléchir, on peut pas raisonner. C'est pas vrai, hein. Et c'est pas vrai non plus des personnes âgées.
Mettez-nous du baume au cœur, Jacqueline Lagry. Quelles sont les vertus propres à la vieillesse ?
Il y en a tellement que je peux pas les énumérer.
Moi, j'en ai noté plusieurs que j'ai tirées de votre essai.
Oui,
la force d'âme. La douceur, la bienveillance, le temps du silence, la sagesse avec un point d'interrogation,
la générosité,
la transmission. Alors là, il y a des très belles pages sur la transmission.
Mais oui, parce que je crois que c'est très important. Je pense qu'on ne transmet pas seulement quand on est vieux. On transmet toute sa vie. Et moi, mes petits-enfants me transmettent beaucoup de choses et je leur en suis très reconnaissante. Mais quand on est âgé, ben on réfléchit sur ce qu'a été sa vie, ce qui a été bien, et on réfléchit sur qu'est-ce qu'on a transmis. Alors quand on est prof, on croit qu'on a transmis un savoir, et c'est très important. On est quand même des médiateurs. Mais n'importe quelle personne âgée transmet des choses. Et surtout, on peut leur transmettre, enfin on peut transmettre autour de nous ben, l'amour de la vie, le goût de l'indépendance, et une indépendance qui implique à partir de, enfin même très tôt, qu'on sache déléguer et qu'on sache se faire aider. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent dépendantes et malheureuses parce qu'elles n'ont pas su se faire aider avant, par orgueil, parce qu'elles croient qu'elles peuvent tout faire toutes seules. Donc, il y a effectivement des vertus de l'âge et qui sont rendues possibles par le fait qu'on est qu'on peut se défaire d'un certain nombre d'obligations.
Et ça, on s'allège en vieillissant.
On s'allège, oui. Ben, on a moins d'obligations familiales, on a moins d'obligations professionnelles, on a moins d'obligations politiques. Moi, je milite plus activement. Je peux pas marcher, je marche mal. Je vais pas aller à une manif, hein, même si je suis d'accord. Mais je vote et puis j'incite autour de moi à ce qu'on vote. Mais le fait qu'on ait du temps libre, comme on dit, eh ben ça veut dire qu'on peut utiliser ce temps pour des choses qu'on n'aurait pas pensé à faire avant. Et ça peut être des choses minimes, mais qui permettent à chaque fois un plaisir, un épanouissement, voire un émerveillement. Oui, il y a des tas de vertus de la vieillesse.
On peut s'émanciper des passions tristes quand on vieillit ?
À condition de s'être entraîné avant. Oui, on peut s'émanciper des passions tristes. De toute façon, ça sert à rien, les passions tristes. Le regret, le remords, la haine, à quoi ça sert? Alors que la joie de vivre, le pardon, l'affection, c'est tellement plus efficace si on cherche l'efficacité. Puis ça permet de se sentir mieux.
Et continuer, vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure, de s'étonner qu'il y a quelque chose plutôt que rien.
Oui, ça c'est mon côté métaphysicien de province. Hein, puisque Leibniz se disait, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Eh bien, à cette question-là, je préfère la question, qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui que je ne trouvais pas hier? Clémence, par exemple, que je connais par son livre et que maintenant je connais par son sourire. Il y a plein de choses qu'on peut découvrir chaque jour. Et c'est quand même assez extraordinaire.
Clémence Guillermin, je voudrais que vous... Alors, on ne va pas entrer dans les détails biologiques et tout ça, parce que c'est quand même assez costaud. Mais vous distinguez... Enfin, en biologie, on distingue le vieillissement intrinsèque
et extrinsèque.
Quelle est la différence? Vous pouvez nous le dire vraiment, grosso modo.
Ça fait partie des quelques notions que je présente dans mon ouvrage, qui sont des notions qui ont cette particularité d'être assez floues, assez ambiguës, assez mal définies, et néanmoins qui semblent vouloir dire quelque chose du regard qu'on pose sur le vieillissement, en tout cas. Donc, la différence entre vieillissement intrinsèque et vieillissement extrinsèque, pour répondre à votre question, elle n'est pas évidente. Globalement, quand on parle de vieillissement intrinsèque, on fait soit référence à la composante génétique du vieillissement, tout ce qui est programmé par l'organisme, soit on fait référence à l'évolution saine de l'organisme, c'est-à-dire en l'absence de toute autre pathologie identifiée, donc une avancée en âge saine et non pas pathologique, ou alors parfois c'est simplement une espèce de catégorie pratique qui permet de désigner le vieillissement, les manifestations liées à l'avancée en âge qui ne sont pas causées par une pathologie, qui ne sont pas liées à une prédisposition particulière, qu'on n'arrive pas à expliquer autrement que par le passage du temps. Mais il y a une multiplicité de significations, et alors à chaque fois, ça s'oppose à ce qu'on appellerait le vieillissement extrinsèque, qui est donc plutôt lié aux éléments extérieurs, aux agressions environnementales, ou à une pathologie bien identifiée.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est plus fragile quand on vieillit?
Oui, alors la notion de fragilité, c'est une notion qui est très employée, qui a été très employée en gériatrie d'abord, et puis ensuite qui a été transposée en biologie. Je sais que Madame Lagré, vous en parlez aussi dans votre livre. En fait, c'est une notion qui a été opérationnalisée en biologie, puisqu'on a mis au point des instruments de mesure, des indices de fragilité. On a défini aussi un phénotype de fragilité. Mais là encore, c'est une notion qui est pas très claire, pas très bien définie. On parle de fragilité, soit pour désigner une cause sous-jacente du vieillissement, soit c'est un syndrome gériatrique, soit c'est un état. Donc oui, les personnes âgées, on essaye de définir dans quelle mesure est-ce qu'elles sont fragiles, donc a priori plus sensibles aux agressions environnementales, avec une moindre capacité de résilience, par exemple.
Qui dit fragile, dit vulnérable.
Voilà, c'est sous-entendu une plus grande vulnérabilité, une perte de normativité, si on veut reprendre les termes canguilhémiens. Voilà, mais là encore, il y a de multiples manières d'utiliser, de mobiliser cette notion de fragilité, qui fait que cette notion est particulièrement pertinente, à mon sens, pour appréhender le vieillissement.
Mais la vieillesse, le vieillissement n'est pas une maladie, et pourtant c'est analysé comme tel.
Oui, alors c'est là où c'est paradoxal. Alors mon titre est à dessein un peu provocateur. Il faut quand même rappeler qu'en biologie, les biologistes ne sont pas d'accord à ce sujet. C'est-à-dire que vous avez des biologistes qui sont convaincus que le vieillissement n'est pas une maladie, qu'il existe un processus justement de vieillissement intrinsèque, et de l'autre côté des pathologies liées à l'âge. D'autres qui considèrent qu'on a un continuum entre vieillissement et pathologies liées à l'âge. Et d'autres pour lesquels, et là ça va peut-être vous surprendre, d'autres qui considèrent que le vieillissement devrait être idéalement appréhendé comme une pathologie, comme une accumulation de pathologies. Qu'il y a une fausse dichotomie entre vieillissement d'un côté et pathologie de l'autre. Je pense par exemple au biologiste britannique David Gems, qui considère que ce serait beaucoup plus fécond d'appréhender le vieillissement comme une accumulation de pathologies liées plus ou moins à l'avancée en âge.
Je suis complètement d'accord et j'ai essayé de distinguer entre la fragilité, la faiblesse, la vulnérabilité. Mais moi, je pense que comme on a appris beaucoup de la fragilité des enfants et de la fragilité des malades chroniques, on pourrait apprendre beaucoup de la fragilité de la vieillesse. Je m'explique. Il se trouve que j'ai un petit-fils qui est à la fois diabétique et malade cœliaque et qui est un enfant fragile. Et qui était psychologiquement fragile, puisque quand on a découvert son diabète, il venait de perdre son père. Il avait 5 ans. Et il a fait un coma diabétique. Et cet enfant, on s'en est occupé, c'est maintenant un jeune homme magnifique.
Dont sa grand-mère est très fière.
Dont sa grand-mère est très fière, comme de tous les autres. Mais surtout, il nous a posé des tas de problèmes d'adaptation. Comment lui faire à manger? Comment le traiter? Et le traitement des malades fragiles, enfin qui sont les malades chroniques sont des malades fragiles, ça a incité à créer des associations de malades pour faire avancer les diagnostics et pour modifier un peu les traitements. Hein, on est passé de la piqûre à la pompe à insuline, c'est quand même un progrès formidable. Mais c'est aussi se dire qu'il y a peut-être d'autres solutions possibles que celles qu'on faisait toujours, hein, que on fonctionne sur des stéréotypes. Quand Titouan était petit, la cantine scolaire voulait pas lui faire à manger ce dont il avait besoin. Disait il faut qu'il amène sa gamelle. Et son diabétologue, qui est un type extraordinaire, est allé voir les responsables de l'école en disant on est dans une école publique, donc on nourrit tous les enfants. Ben, si on nourrit tous les enfants, on s'adapte, on crée de nouvelles choses. Et je peux vous dire que ceux qui étaient les plus contents, c'était les cuisiniers, parce qu'ils faisaient pas toujours la même chose. Eh bien, je crois que la fragilité, au fond, la néothénie des nourrissons, ça a incité les hommes à devenir intelligents et à servir d'outils. Vous êtes d'accord?
Je suis complètement d'accord avec vous et j'irai même peut-être encore plus loin sans parler même des enfants avec des pathologies avérées. Il faut quand même rappeler qu'il y a encore pas si longtemps, la petite enfance n'était pas du tout l'âge d'or, l'âge béni qu'elle est aujourd'hui.
C'est vrai.
Et on a vraiment fait une véritable transformation en quelques décennies et aujourd'hui, on s'attache aux enfants comme on le faisait pas il y a encore quelques temps. On considère que c'est un âge plein de promesses, plein d'espoir et c'est devenu l'âge béni que c'est aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a moyen de faire la même chose à l'autre extrémité de la vie.
Et quand ils pleurent, on dit pas ils sont mauvais caractère.
Exactement.
On dit peut-être qu'ils ont mal.
Exactement. Hein,
et qu'il faudrait trouver la source de la douleur. Et moi, je pense vraiment qu'on peut faire. D'abord, on sera obligé de le faire. Hein,
oui.
Parce que comme il y a de plus en plus de vieux et de vieilles, et qu'on va quand même pas tous les mettre dans des EHPAD, il faudra bien qu'on travaille pour leur permettre de vivre chez eux dans des conditions raisonnables.
Michel Jonas dans Leur philo vieux style, c'est le titre de la chanson.
Le nain de sa jeunesse et son fils trouve ça débile. Blowing in the wind, yes, connaît pas qu'un Blueberry Hill. Parle encore avec tristesse de l'époque des anciens billets de mille. Se souvient du moulin rampe avec des larmes de crocodile. Et tous les gens l'appellent vieux style. Aujourd'hui son Cochrane dit s'en va les piles. La radio sans Lucien Jeunesse, le Tour de France sans Jacques Antille. Comment frimer les gonzesses, y'a plus de belles automobiles. Lui il a gardé sa déesse et tous les gens l'appellent vieux style. Vieux style, vieux style, vieux style, vieux style. Tous les gens l'appellent vieux style. Camille et Dauphine, mon amour Marilyn, bref, sur scène.
quelqu'un derrière les barricades Copacapitaine. Copacapitaine. Mais les belles années disparaissent comme les chewing-gums, la vraie chlorophylle. Adieu Cochrane, dit adieu Bouddhi, adieu à l'épire. V'là les cheveux qui sont la main, v'là la vieillesse qui se profile. Le dos qui fait un peu mal, le twist qui est devenu difficile. Et tous les gens l'appellent vieux style. Il dit que c'est dur aujourd'hui, son Cochrane et dit son Alépil. La radio sans Lucien Jeunesse, le Tour de France sans Jacques Anquetil. Comment frimer les gonzesses, y'a plus de belles automobiles. Lui, il a gardé sa déesse et tous les gens l'appellent vieux style, vieux style, vieux style, vieux style, vieux style. Tous les gens l'appellent vieux style. Si Camille et Dauphine, mon amour Marilyn brève sur scène. Tout coule une embuscade, derrière les barricades Copacapitaine. Oh, l'Algérie à la une, premier pas sur la lune, juste Fontaine. Jouer Fatih, Yuri Gagarine, mon amour Marilyn. Mon amour Marilyn. Mon amour Marilyn. Siffle un air de sa jeunesse et son fils trouve sa débile.
Heures de travaux d'intérêt général.
Ça va, ça sent bien.
Une maison de retraite.
Franchement, je préfère la prison.
Bienvenue au Mimosa.
Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage.
Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer.
Alfred.
Enchanté, Milan.
Ferme ta bouche, je te la ferme.
Elle, c'est Thérèse, Émeric et Jean-Nicole.
Je peux plus travailler ici, c'est un enfer.
Tu sais ce que disait Groucho Marx?
Non.
Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.
Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite?
Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles.
Je dois les aider.
C'était la bande-annonce du film La maison de retraite de Thomas Gilou. Alors là, c'est aussi une réalité. C'est quelque chose qui fait très peur, la dépendance, la mise à l'écart, le regroupement des vieux, Jacqueline Lagray.
Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience des maisons de retraite, parce que je les ai pas fréquentées encore.
Non, mais effectivement, vous y êtes peut-être allé pour visiter.
Non, mais je me souviens d'une tante qui avait 85 ans, qui rentre dans une maison de retraite, parce qu'elle pouvait plus vivre toute seule, puis elle disait, il y a que des vieux ici. Mais, bon, je pense qu'on sera obligé d'inventer d'autres formes d'organisation que les maisons de retraite, et en distinguant d'ailleurs les maisons où il y a simplement des services alimentaires ou de ménage, et les maisons où il y a un service de type hospitalier.
Mais il y a une forme de dépossession de soi dans un EHPAD, comme on dit aujourd'hui, une maison de retraite, non?
La plupart du temps, oui, mais c'est pas forcé. J'ai connu quelqu'un qui était en maison de retraite parce qu'elle venait de perdre son mari et que son fils l'avait placé là autoritairement, et qui était une personne très active qui apprenait à faire des sacs avec des sacs plastiques. Elle faisait des choses très jolies. Elle s'est mise à faire des cours de cuisine à tous les gens qui étaient là, des cours de bricolage. Et elle a vécu jusqu'à 100 ans en étant active presque jusqu'au bout.
Est-ce que c'est un souhait pour vous de vivre jusqu'à 100 ans? Parce que
Il y a évidemment aussi le...
Non, pas du tout.
Sans parler d'Elon Musk, qui lui voudrait l'éternel... Enfin, et pas que lui d'ailleurs. Et des recherches pour rester éternellement jeune. Mais ça, c'est autre chose. Ils sont quand même...
Non, j'ai pas envie.
Non, vous avez pas envie.
Parce que d'abord, je trouve que j'ai fait plus que ce que j'avais rêvé de faire quand j'avais 20 ans. Alors ça, c'est pas mal quand même. Hein. Et puis, en gros, oui, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Alors après, on peut toujours dire, ah oui, mais je voudrais être arrière-grand-mère... Bon, puis après, faudra être quoi ?
Arrière-arrière-grand-mère ?
Oui, non. Moi, bon, j'aimerais pas mourir dans les années qui viennent. J'ai encore un certain nombre de projets. Mais je pense que quand on n'est plus capable d'avoir des projets, donc on n'a plus d'avenir, et dans ce cas-là, en général, on n'a même plus de présent.
Moi,
dans
je vous devine entre les lignes. Vous voulez savoir ce que va devenir Donald Trump ? C'est ça que vous voudriez savoir.
J'aimerais qu'il meure assez vite, c'est vrai.
Clémence Guillermin, la réflexion donc sur la vieillesse, sur le vieillissement, évidemment, c'est quelque chose, c'est philosophique. Et d'ailleurs, vous servez beaucoup de la philosophie pour ce faire. Mais c'est aussi un problème politique, si on pense précisément aux EHPAD et à ce qu'on fait des personnes dépendantes.
Oui, tout à fait. La question qui se pose derrière tous les propos de Madame Lagré, toute ma réflexion sur le vieillissement biologique, la question qui se pose, c'est la question de l'attitude que l'on choisit d'avoir face à la vieillesse, face aux personnes âgées, face à tout ce pan de la société. On ne peut pas fermer les yeux. Et donc, à ce sujet, moi, je fais généralement référence à un article de Julie Henry et Sarah Carvalho, qui sont deux philosophes qui travaillent actuellement, de 2015, je crois, qui expliquent qu'en fait, face à la vieillesse et au vieillissement, on a au moins trois grandes attitudes possibles. La première, c'est le prisme de la médecine anti-âge. Vous faisiez référence à Musk, à Elon Musk et Trump et voilà, Brian Johnson, etc. C'est se dire qu'on va s'ancrer dans cet idéal de maîtrise de soi, qu'on va chercher à lutter contre le vieillissement, le repousser, l'arrêter, l'inverser.
Changer,
etc.,
les organes.
Voilà, changer les organes un par un, rajouter des prothèses, etc. Deuxième attitude, c'est l'attitude du bien vieillir. Ça, c'est l'attitude prônée par la plupart des pays européens. C'est de se dire qu'on va responsabiliser les individus en leur donnant les moyens de vieillir le mieux possible, qui pose problème aussi puisqu'on déresponsabilise en un sens les institutions. Et troisième attitude, c'est celle qui est à mon avis emblématique de votre ouvrage, Madame Lagré, c'est de se dire qu'on va redonner une valeur propre à la vieillesse et à la fin de vie, qu'on va apprendre à aimer cette phase de la vie pour ce qu'elle est, même si elle comporte une certaine vulnérabilité.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jacqueline Lagré, Laure Adler, c'était dans une matinale de France Inter en 2020.
Dans d'autres civilisations que la nôtre, la vieillesse est un supplément, la vieillesse est une possibilité de transmission de connaissances, la vieillesse est une possibilité de s'occuper des autres, la vieillesse est une altitude, la vieillesse est un désencombrement de soi-même, des vanités qui nous ont occupés pendant extrêmement longtemps, la vieillesse est une possibilité aussi de vivre intensément le bonheur quotidien, que ça soit de se réveiller comme ce matin, que ça soit de marcher le long de la Seine comme tout à l'heure, que ce soit d'entreapercevoir le bleu du ciel. Il y a une espèce de rapport direct à la vie. Et d'autre part, il y a beaucoup moins de carapace à l'intérieur de soi et de désir d'être regardé par les autres comme existant sur l'échiquier social. Donc cette espèce de...
On s'en fout en fait, c'est ça, on s'en fout plus de son image.
C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup de temps à faire des choses qui étaient totalement inutiles et finalement qu'on n'a pas passé assez de temps pour faire des choses qui nous faisaient plaisir. Et dans les choses qui nous font plaisir, il y a beaucoup de choses intérieures qui sont extrêmement faciles à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont de s'occuper des autres. S'occuper des autres, ça donne un plaisir extraordinaire.
Jacqueline Lagré, vieillir, ça n'est pas un affaiblissement, mais une exigence ?
C'est une exigence et c'est un accomplissement.
Il faut sortir de la vie comme un convive rassasié, disait Sénèque.
Oui, et je suis complètement d'accord.
Vous vous y préparez, Clémence Guillermin ? Elle est loin pour vous, la vieillesse.
Attends,
vous avez du bol.
J'espère que c'est encore un peu loin.
Vous allez voir, ça passe très très vite.
C'est ce qu'on nous dit.
Merci en tout cas à toutes les deux. Jacqueline Lagré, vieillir, point d'interrogation, tout un art, c'est publié aux Presses universitaires de Rennes. Clémence Guillermin, le vieillissement n'est pas une maladie, c'est publié aux éditions du PUF. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci à vous.